notre village a toujours eu comme une communauté gay. De qu'est-ce qu'on a comme appris au travers là, de les 7 ans qu'on vit ici. Donc, ça n'a pas été difficile pour nous d'être bien accueillis. Les enfants, ils nous voient, puis ça ne pose pas de questions. C'est juste, c'est normal. Ça fait partie de leur quotidien aussi qu'on fait partie de leur village parce qu'on les nourrit. Les parents viennent à notre kiosque libre-service, ils achètent nos légumes, ils nous voient. Je suis sûr que les jeunes posent des questions, mais là, ça fait juste les... Ben, ils apprennent plus tôt, là, dans le fond, que c'est la réalité de notre monde. Là. Il y a du monde comme nous autres.
T'es-tu déjà demandé c'est quoi le rôle de la communauté LGBTQ+, dans notre rapport alimentaire quotidien? Ou si les salopettes, c'est un chandail ou des pantalons? Ou même si les tomates sont queer? Dans cet épisode, nous traverserons fumier, bétail et champs de blé pour venir à la rencontre de la fierté agricole du Québec. Et enfin avoir la réponse à nos questions. Ben, en fait, je veux dire les tiennes. Bienvenue à Ensemble pour tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Je m'appelle Coco Béliveau, humoriste et fermière réticente. Y a-tu quelqu'un qui sait comment conduire le tracteur? Parce que je pense pas avoir vu ça dans mon cours de conduite.
Je m'appelle Frédérique Leblanc-Piette, j'ai 24 ans. En ce moment, j'habite à Sherbrooke, à Lennoxville, mais je suis née à Montréal, même si je m'identifie plus comme gaspésienne parce que ça fait quelques années que je vis en Gaspésie. En ce moment, j'étudie à l'Université Bishop's dans un des nouveaux programmes, le nouveau programme en Sustainable Agriculture and Food Systems, qui est un programme d'agriculture durable et de système alimentaire.
Nous commençons notre dur labeur dans les cantons de l'Est avec Frédéric, qui ressent l'appel d'une vie agricole et rêve d'un jour posséder son propre lopin de terre, pareil comme dans le début de la toune des générations de mes aïeux.
Puis moi, mon objectif, ça serait d'avoir une ferme autosuffisante, mais aussi qui redonne vraiment à la communauté. Là. Moi, je vois plus ça comme un appel, un besoin, puis une évidence. J'ai beaucoup souffert d'éco-anxiété. J'en souffre encore beaucoup, comme beaucoup de monde de ma génération, je pense. Puis pour moi, c'était comme la solution, comme me redonner un peu le pouvoir pour me battre un peu contre cette fin qu'on nous dit un peu inévitable, puis que je sais que ça va arriver de toute façon, mais d'un peu redonner à la nature puis aux autres espèces qu'on a juste maltraitées toutes ces années. Fait que, ouais, c'est ça, mon rêve, c'est d'avoir une ferme en Gaspésie qui serait vraiment diversifiée, là, des animaux, de la culture maraîchère, mais aussi des vergers. Puis je pense que mon rêve ultime, ça serait avoir des moutons, des chèvres, puis filer la laine, puis la teindre avec des végétaux. Moi, je m'identifie, comme une femme. Puis oui, je suis queer. J'ai toujours su que j'étais pansexuelle, mais vraiment attirée envers la personne plus que le genre. Puis j'ai vraiment eu de la chance dans ma vie. J'ai été entourée de personnes qui étaient très acceptées. Puis il y avait une grande acceptation, puis une grande ouverture. Puis dans mon programme, je pense que c'est tellement un programme niché, puis c'est pas mal juste des personnes qui veulent changer le monde, qui ont une nouvelle vision de notre système, de notre société, qui veulent justement sortir de ce système, de ce chemin-là. Donc jusqu'à maintenant, toutes les personnes que j'ai rencontrées à Bishop sont vraiment des personnes ouvertes, puis je dirais 85% de mes amis sont queer. Je dirais que j'ai plus ressenti une discrimination, pas par rapport au fait que j'étais queer, mais par rapport au fait que j'étais une femme. J'en ai parlé beaucoup aussi avec mes amis là, avant qu'on se rencontre. J'ai fait un petit briefing, est-ce qu'il y a des choses que je dise, ça. puis c'est vraiment quelque chose qui est partagé, un sentiment qui est partagé. Là. Même j'ai un de mes collègues justement qui est un homme trans, puis lui, il dit qu'il ressent une différence par rapport à avant sa transition et maintenant du regard des autres puis comment on le traite. Mais oui, même en classe un petit peu, on a eu un cours pratique l'année passée puis il y avait des petites blagues, tu sais, de comme « Ah, vous avez pas votre permis de brouette. » Tu sais, c'est juste des petits calls qui paraissent innocents mais qui c'est vraiment frustrant à la longue. Puis moi, l'année passée, j'ai été dans un processus pendant un an pour partir une ferme avec... j'étais en troupe, dans le fond, avec une femme et un homme. Puis on voulait partir une ferme qui ça n'allait pas fonctionner à cause des assurances. Et on revient au problème d'acheter une terre, là. Mais ça, c'est encore une autre chose. Puis c'était vraiment tout le long, c'était... OK, mais il allait parler à l'homme. Les femmes, on était en arrière. Puis tout le monde assumait toujours que c'était un couple, homme-femme, puis il y avait une fille par rapport. Tu sais, il n'y avait jamais... Tu sais, il y a toujours les préjugés de « il y a besoin d'un homme, qu'est-ce que vous allez faire s'il n'y a pas d'homme? » Puis j'ai un de mes amis aussi qui a travaillé sur une ferme qui était tenue par un couple de lesbiennes. Puis c'était à chaque fois que les deux femmes allaient dans des marchés... Tout seul, des marchés publics, les gens venaient les voir, puis c'était comme, ah, oh, ben là, c'est qui s'occupe des réparations du tracteur, qui conduit le tracteur, ils se sont déjà fait demander ça. Puis c'est comme, ben nous, on est capables, il n'y en a pas besoin d'hommes, mais sinon, on demande de l'aide si on a un problème, mais on est capables. Donc, c'est vraiment plus ce côté sexiste-là. Puis j'ai l'impression que la communauté gay, homosexuels des hommes et plus épanouis un peu dans le domaine de l'agriculture parce qu'il y a encore vraiment ce stéréotype-là puis cette misogynie. C'est ça. Que plus encore que peut-être de l'homophobie ou c'est ça, de la discrimination par rapport à la communauté queer.
Déjà que certaines personnes sont curieuses de savoir qui porte les salopettes dans les relations fermières-fermières, Frédéric anticipe qu'il y aura un lot de nouveaux défis quand elle deviendra agricultrice.
C'est sûr qu'être agriculteur, c'est pas un métier facile. Tu fais pas ça pour faire de l'argent, définitivement. Puis en Gaspésie, en plus, il y a comme une isolation de base, là. Tout le monde est un peu isolé parce que tout est loin. Donc être agriculteur, c'est comme tu t'isoles encore plus. Mais c'est tellement pour moi une passion ou une évidence, un besoin que je vois ça juste comme des choses à vivre, puis pas comme des défis.
Les agriculteurs ont rapidement compris que Dame Nature ne prend pas de pause les fins de semaine, ni de vacances dans le sud en hiver. Quand une difficulté inattendue survient, il est quasiment impossible de déroger des responsabilités quotidiennes et d'aller rechercher le soutien nécessaire. C'est de ce besoin qu'est née Fierté agricole. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Michel Desrochers et Joé Desjardins, qui viennent en aide aux agriculteurs de la communauté.
En fait, c'est même pas nous qui l'avons parti. C'est pas Fierté agricole qui est né de lui-même, c'est né justement d'un besoin. En fait, ça vient de Au cœur des familles agricoles, qui est un organisme pour les personnes en détresse du milieu agricole. Donc, c'est les travailleurs de rang. Donc, oui, les travailleurs de rue, c'est les travailleurs de rang. Donc, spécialisés dans les réalités agricoles. Donc, exemple, un producteur qui ne va pas consulter un médecin. Parce que le médecin, il va dire, « OK, t'es épuisé, prends des vacances. » Malheureusement, des vaches, tu peux pas mettre ça à off. Fait qu'on veut plus entendre ces réponses-là, prendre des vacances, parce qu'on sait que c'est impossible. Tandis que les intervenants en milieu rural, au cœur des familles agricoles, connaissent la réalité. Donc, ils vont trouver d'autres façons de comme aider le producteur dans des réalités qui, eux, peuvent rendre possible. Donc, c'est ça. Donc, une femme qui reçoit un appel, un agriculteur qui va pas bien, elle se rend sur les lieux sur place. C'est comme une urgence, c'est pas loin, elle y va. Ça va pas bien, là. L'étable est en train de passer au feu, présentement. Les animaux sont dedans. C'est comme, ça va pas bien. OK? Et le producteur pleure, on s'entend, là. C'est la catastrophe. Puis, à un moment donné, le producteur dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai quitté Montréal avec mon conjoint. On s'est déménagé en campagne. On n'est pas du tout du milieu, on connaît personne en région. Ça allait bien, mais là, mon conjoint est décédé. Je me retrouve tout seul dans un village que je connais pas. Je travaille énormément, mais je me sens vraiment seul. Puis, c'est ça. Puis là, ben, là, quelques temps plus tard, l'étape passe au feu. Puis il dit, en fait, c'est vraiment que j'ai aucune ressource autour de moi. Donc, elle fait comme, OK, elle n'avait pas vu venir. Fait qu'elle dit, OK, il y a un besoin que j'avais pas envisagé. Bien, c'est sûr que Fierté agricole n'est pas que pour les agriculteurs, premièrement. Là. En fait, la plupart des gens ne sont pas agriculteurs. C'est soit des ouvriers agricoles, donc qui ont un salaire puis qui font autre chose, qui ne sont pas propriétaires. On a des vétérinaires, on a des enseignants en agriculture, on a des étudiants en agriculture, on a des jardiniers amateurs, on a des gens en horticulture. Fait que Les enjeux sont aussi divers que les personnes. Souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est une socialisation qui lui est propre. C'est des gens qui, pour X, Y raisons, ne se retrouvent pas dans les propositions déjà offertes par les communautés LGBTQ+. Exemple, sont trop loin des grands centres, fait que, ils veulent pas faire les 2, 3, 4 heures de route pour se rendre, ou ne peuvent pas, tout simplement, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont des animaux. Ça peut être aussi l'espèce d'incompréhension, justement, d'expliquer un métier. Quand on est tous ensemble, on comprend. Quand on dit « il y a plus d'été », tout le monde comprend. T'sais, comme tout le monde comprend les impacts de dire « il y a plus d'été ». Il n'y a pas de « ouais, mais pourquoi ?» Ça ne nous dérange pas de le faire, puis quand il y a des nouvelles personnes qui rentrent et qui posent des questions, c'est correct. T'sais, on est là pour ça, mais on est aussi là pour juste des fois juste dire « ok, je comprends ». On n'a pas besoin de savoir plus. Dans le village agricole, des fois, juste à dire « j'ai des scarabées japonais », tout le monde comprend c'est quoi des scarabées japonais, puis tout le monde comprend que ça fait, ça fait suer tout le monde. T'sais.
Pendant que le scarabée japonais s'attaque aux arbres fruitiers, allons vers de meilleurs pâturages pour rencontrer Stéphane Lambert, qui nous a parlé de son changement de carrière sans lactose.
Mon nom est Stéphane Lambert. Je suis présentement propriétaire de ma nouvelle compagnie en événementiel, Faucon Événements. J'ai été producteur laitier depuis mon enfance. En fin de compte, je suis né sur une ferme. Et par la suite, jusqu'à l'âge de 37 ans, j'ai travaillé sur la ferme en étant propriétaire aussi. J'avais acheté de mes parents avec ma sœur et mon beau-frère. Et à 37 ans, j'ai décidé de retourner aux études et de changer de métier, vraiment d'aller dans une autre direction, soit l'événementiel. Quand j'ai fait mon coming out, ça a pris des années. Mais tu sais, des années, est-ce que c'était des années de questionnement? Est-ce que c'était des années malheureuses avant mon coming out? Non. J'ai eu des relations avec des femmes, mais je suis pas... j'avais pas le feeling que c'était ça. Bien, l'amour, puis faire l'amour, j'avais comme pas l'impression que c'était ça. Ça a duré un 5-6 ans. Et lorsque ma nièce est née, ma nièce, elle a une malformation. Le syndrome, je peux pas vous dire, je crois que c'est syndrome 12 ou 21. Je veux pas me tromper, mais c'est une grande maladie qu'il y a pas beaucoup d'enfants qui sont malades, qui sont atteints de ça au Canada et mondialement. Et ma nièce, elle peut pas marcher, elle peut pas parler, elle peut pas voir. Alors... Quand ma sœur elle a eu la petite, je suis arrivé, puis là, ce mot, ça m'a donné un coup, vraiment un coup. J'ai tombé de haut. J'ai fait une dépression, et ça, c'est dur de l'accepter. Moi, c'est vraiment, au début, c'est que on vit dans un milieu. Moi, j'avais ma ferme dans ce temps-là. Il y a personne qui s'en est rendu compte que j'allais réellement mal parce qu'on fait, on se met une carapace. Hein, on veut montrer qu'on est bon, on veut montrer qu'on est fort. Mais moi, j'habitais tout seul à ma maison. Je me souviens, j'arrivais de faire mon train à l'étable. Et juste le fait de me dire, OK, là, Stéphane, faut-être te laver, ça me prenait environ 3/4 d'heure, 1 heure. J'étais assis sur une chaise puis je me disais, là, faut que tu ailles prendre ta douche. Et ensuite, une fois que ma douche était prise, là, c'était « OK, là, Stéphane, faut que tu manges. » Et par la suite, c'est lorsque cette période-là, ces quelques mois-là sont passés, je me suis rendu compte que j'allais mieux. Puis, bizarrement parlant, c'est après que j'ai décidé d'aller consulter pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi du jour au lendemain, ça va bien? Pourquoi du jour au lendemain, j'ai envie de rire? Pourquoi du jour au lendemain, j'ai envie de sortir, voir mes amis? Mais pour me rendre compte que c'était une dépression que j'avais fait. Comme j'ai mentionné, c'est pas une dépression sévère, mais c'était quand même une dépression. Puis par la suite, ça me rentrait dedans. Je me suis dit, ma nièce, elle peut pas parler, elle peut pas boire, elle peut pas se déplacer. Puis moi, j'ai tout ça. mais je suis pas capable de montrer avec qui je veux passer ma vie, qui j'aime, avec qui que je veux que les gens me voient. Et c'est là que j'ai décidé de faire mon coming out. Tu sais, je suis allé vraiment, et puis c'est vraiment 31 ans, là, à 31 ans. Le matin, j'étais arrivé chez mes parents. Mon père est au téléphone. Ma mère a de la misère avec son imprimante. Puis là, elle me dit, Stéphane, j'ai besoin d'aide pour mon imprimante. Puis moi, je me dis, hey, mon Dieu, si tu savais qu'est-ce que je vais t'annoncer dans quelques minutes. Mon père raccroche au téléphone. Là, je dis à mes parents, écoutez, là, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai dit, là, soyez-vous. Là, j'ai dit, je suis pas malade, j'ai pas de cancer, j'ai pas rien. J'ai dit, je veux juste vous dire qu'à Noël, je vais être accompagné, mais ça va être accompagné d'un homme. Je vais être accompagné d'un homme. Et là, je dis à mes parents, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, si vous voulez pas que je vienne accompagner, j'ai dit, je vais comprendre, étant donné que c'est comme dans 2 semaines, puis là, que je fais mon coming out aussi. Et mon père, sacré, il est décédé maintenant, mais il a sacré toute sa vie. Et de son verbal, il dit, voyons, tabarnak, Stéphane, il dit, ton chum va toujours avoir la place ici, avec nous. Fait qu'il dit, il est crissement le bienvenu à la maison. Fait que après ça, je suis parti. J'ai fait mon coming out auprès de mes autres sœurs, une par une. Et jusqu'en soirée, en fin de compte, je me souviens, il faisait super froid, c'était une tempête de neige aussi. Là, fait que j'ai vraiment fait mon coming out en une journée. Une grosse journée. Vraiment une grosse journée. Puis ça va faire... je l'ai fait à 31 ans, j'ai 41 ans. Ça va faire 10 ans. Fait que oui, ça fait 10 ans que... Ça va faire 10 ans que j'ai fait mon coming out. Ouais.
Le coming out de Stéphane nous montre que dans le milieu agricole, peu importe ton orientation ou ton identité de genre, la nouvelle main-d'œuvre est toujours la bienvenue.
Dans mon milieu de travail, ça s'est super bien passé, tu sais, dans le sens que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait rire, puis je continue à rire, même après toutes ces années. Tu sais, la vie est super belle, là. Mais je parle fort, j'ai des bonnes relations. Je ne l'ai pas caché. Une fois que mon coming out était fait, je ne l'ai pas caché. Quand on parle de mes collègues de travail, moi, je travaillais vraiment avec mon beau-frère qui était mon associé, ma sœur aussi. Mais après ça, c'était plutôt des fournisseurs. Les vétérinaires, les personnes responsables de l'alimentation des animaux, les meuneries, tous les autres fournisseurs de tracteurs, d'essence. Je l'ai fait, mais ça s'est super bien fait. Tu sais, dans le sens que les gens, j'ai jamais, jamais eu de mauvais commentaires. Jamais. J'ai eu une belle preuve de respect, mais en même temps, j'étais le client. Fait que le fournisseur avait pas intérêt à porter aucun jugement envers moi parce que j'aurais changé de fournisseur, tout simplement. Mais j'ai jamais, jamais, jamais eu de mauvais commentaires. Puis il faut être fier, faut se promener à la tête haute là, pour ça. Mais sinon, il y a un fournisseur qui, à un moment donné, tu sais... En région, je ne sais pas si ça se fait comme ça aussi dans la région de Montréal ou Québec, je ne sais pas. J'avais un fournisseur qui nous donnait un cadeau à toutes les années. Puis à toutes les années, c'était un calendrier de femmes femmes tout nues. Puis à un moment donné, j'ai dit, moi, ton calendrier, c'est pas moi. J'ai dit, ça me prendrait un calendrier d'hommes. Puis il était vraiment surpris, mais j'ai eu droit à avoir mon calendrier d'hommes. Le métier d'agriculteur, c'est tout qu'un métier. c'est un grand métier. Le métier, pour moi, le plus important. Puis là, je ne veux pas me faire garrocher de pierres, de roches, peu importe, mais d'après moi, on nourrit la population. On nourrit la population. C'est du 7 jours sur 7, 365 jours par année. Puis quand on parle 365 jours, c'est à Noël, tu te lèves, puis tu vas faire ton train. Au jour de l'an, tu te lèves puis tu vas faire ton train. Même si tu as dormi 2 heures, puis les journées sont aussi longues. C'est des grosses journées. C'est une vocation. Mais je vous dirais que c'est ça, les agriculteurs, il y a une grande solitude. Une grande solitude dans le sens que... puis il faut avoir les amis aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir... j'ai des amis formidables. Dans le sens que, « Hey Stéphane, on va faire notre souper à 20h. » Mais ça vous dérange. Tu sais, arriver souper, puis je vais manger après, là. Non, non, Stéphane, on va t'attendre à 20h. Ça, c'est des amis en or qui nous prennent, qui prennent le temps de nous attendre. Puis c'est pas même, c'est pas comme ça partout.
À moins d'avoir appris à communiquer avec leurs amis bovins tels Dr. Doolittle, les agriculteurs ont besoin d'une communauté qui comprend leurs besoins et qui les supporte. Surtout dans le froid de l'hiver, quand le sentiment d'isolement est à son comble.
Comme, il y a quelques années, on avait un souper de Noël, puis il y avait un membre qui venait pas souvent aux activités du souper de Noël, qui est notre plus grosse activité, vu que c'est né de là, c'est encore le souper de Noël qui est notre grosse activité, et c'est aussi le party de bureau que nous, en tant qu'agriculteurs, on n'a pas. On se fait pas un party de bureau, Michel puis moi, tout seul ensemble. Donc, cette espèce de connexion-là qui est le fun aussi, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, il y a pas, ces marqueurs-là. Fait qu'il y a le souper de Noël, et pour une fois, c'est proche de chez eux, il est content. Il va pouvoir venir parce que il y a des vaches à lait, puis il peut pas souvent venir. Et là, il m'appelle, il dit « Joey, j'ai une vache qui donne naissance. Ça se passe pas bien. » Là, j'ai dit « Garde, on va garder ton assiette au chaud. Ça va bien aller. Tiens mon courant. » Juste le fait que quelqu'un qui comprend la réalité du stress, de se dire hey, « une fois par année, je peux aller voir ma gang, puis à cause que la nature a décidé qu'elle donnait naissance, puis que ça se passait pas bien, que là, il y a besoin d'un vétérinaire, peut-être sa vétérinaire, je me rappelle plus, ça finit en césarienne ou quoi que ce soit, je me rappelle plus. Mais, en fait, je me rappelle que tout le monde était vivant, ça je me rappelle, mais qui s'est présenté, qui est venu. Mais tu sais, c'est une réalité, là. C'est ça qu'on comprend dans Fiat Agricole.
Pendant que Michel et Joey attendent l'arrivée de la Messie bovine, allons à la rencontre de Samuel Tanguay, des maraîchers de l'Or Vert.
L'idée de notre projet, ça a vraiment né pendant notre voyage en Islande en 2016. C'était un peu un voyage organisé après le fait que la première maison qu'on voulait acheter, ça n'a pas fonctionné. Puis on était comme un peu depressed. Donc on a décidé d'aller en Islande puis juste faire quelque chose de différent parce qu'on aime beaucoup ça des projets dans la vie. Nous, on est un bon couple là, qui aime ça, avoir un projet puis faire des trucs de même. Puis... pendant notre voyage, on a rencontré plusieurs agriculteurs qui avaient vraiment l'air d'avoir une belle communauté autour d'eux autres. Puis on a vu des serres de tomates chauffées avec la géothermie. Puis on s'est dit, on aimerait ça vraiment comme retourner chez nous avec ce genre de sentiment là, de communauté puis de sens d'appartenance dans un village. Donc on s'est dit, on pourrait peut-être partir une ferme en Islande. On va avoir des moutons, ça serait trop hot. Puis finalement, Jason, il dit, tu vois ta mère trop souvent, là, il faut qu'on reste au Québec. Donc, c'était bien drôle de même. Puis finalement, comme 3 semaines plus tard, on a acheté la ferme. On a découvert un peu le maraîchage pendant notre voyage en Islande. On regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire sur une petite terre, là, dans le fond, pour faire de l'argent sur un petit terrain. Parce que moi, mes parents étaient producteurs laitiers. Puis je savais qu'avoir une grosse ferme, ça a beaucoup d'argent, beaucoup d'entretien. Puis comme je veux pas faire ça. On a choisi une petite ferme. On a découvert le livre à Jean Martin sur le maraîchage. On l'a lu. Puis 3 semaines plus tard, on a acheté notre ferme à Sawyerville, où qu'on est maintenant. Puis c'était plus comme un coup de foudre spontané, un peu de luck aussi là, d'inclus là-dedans.
Vu leur désir de créer une petite ferme maraîchère, Samuel et son partenaire ont consulté les travaux littéraires de l'agriculteur Jean-Martin Fortier, un expert en permaculture qui leur a permis de chercher les connaissances nécessaires pour créer la micro-ferme de leurs rêves.
On ne connaissait pas d'autres agriculteurs qui faisaient partie de la communauté LGBTQ. Puis plus tard, on a trouvé 2 autres fermes maraîchères là, des couples qui font partie de la communauté, nos amis Marc et Jonathan. Eux autres, ils vivent pas dans notre village, ils vivent 1h30 de chez nous, ils vivent en fait dans mon village d'enfance. Donc c'est juste un drôle d'addon. Puis on va quand même les visiter assez fréquemment, où on fait comme un effort de les voir 2-3 fois par année là, pour juste pour être capable de jaser parce que c'est plus facile de comme se comprendre un peu, là, juste comparer des pommes puis des pommes. C'est juste plus simple de se comprendre un peu de nos réalités. Puis on a aussi, plus proche de chez nous, on a rencontré Alex et Sarah. Puis eux, ils ont une ferme maraîchère aussi, mais ils ont aussi des chèvres. Puis ces deux filles, là, tellement passionnées, puis sont tellement bonnes dans qu'est-ce qu'ils font. Là. C'est inspirant aussi là, d'avoir comme des amis ou des collègues qui veulent s'entraider, puis qui veulent se rassembler ensemble. Mais notre réalité en agriculture, dans le maraîchage, c'est vraiment dur de se rassembler, surtout pendant l'été, parce qu'on est tous dans le jus constamment. Mais quand on est ensemble, c'est toujours plaisant là, d'être capable de juste parler de nos réalités, de chiller, puis de juste être nous autres. Notre village à Sawyerville, c'est surprenant le nombre de couples gays qui restent dans le village ou tout à proximité. Là, c'est, tu penses pas à ça dans un petit village. Là. Tu peux compter genre 4 couples gays sur la rue qu'on reste dessus. Là, qui allonge quand même assez long là, sur comme 5-6 kilomètres. Il y a quand même une bonne densité. Puis aussi, il y a des agriculteurs, des producteurs laitiers qui vivent comme 1,5 km de chez nous. Puis, c'est des gros producteurs laitiers. C'est un couple gay aussi. Ils sont bien connus dans le village, bien respectés. Notre village a toujours eu comme une communauté gay. De qu'est-ce qu'on a comme appris au travers là, de les 7 ans qu'on vit ici. Donc, ça n'a pas été difficile pour nous d'être bien accueillis. Puis notre orientation sexuelle n'a comme pas un impact dans notre quotidien. Genre, on peut marcher dans notre rue, puis on tient les mains, puis c'est juste normal. Puis les enfants, ils nous voient, puis ça pose pas de questions. C'est juste, c'est normal. Ça fait partie de leur quotidien aussi qu'on fait partie de leur village parce qu'on les nourrit. Les parents viennent à notre kiosque libre-service, ils achètent nos légumes, ils nous voient. Je suis sûr que les jeunes posent des questions, mais là, ça fait juste les... Ben, ils apprennent plus tôt, là, dans le fond, que c'est la réalité de notre monde. Là. Il y a du monde comme nous autres. Puis, c'est ça. C'est vraiment le fun à voir. Là. C'est un beau petit village, puis on a toujours été bien accueillis. C'est sûr que des fois, des défis, c'est que... Ben moi, particulièrement, je suis comme un peu la voix de la ferme. Mon chum, il est plus anglophone. Jason, il est plus anglophone. Donc, ça... Les téléphones, c'est plus moi qui les fais. Puis, j'ai l'impression... Des fois, je me fais... Je peux être légèrement comme intimidé. Genre, je peux me faire sentir intimidé par des gens au téléphone qui ont un genre de air. Puis, il faut que je me mette comme... faut que je sois faux avec eux au téléphone, comme faut que je parle comme eux autres, faut que j'utilise le même genre de vocabulaire, faut vraiment que je straighten up pour être capable de me faire prendre un peu au sérieux. C'est plus tant le cas, mais dans les départs, là, surtout les premiers appels, pour comme faire une bonne première impression. Ouais, des fois, faut que t'agis un peu plus quote-unquote straight. C'est un peu moche, là. C'est sûr que ça, c'est un des trucs que tu veux comme moins vivre, puis que des fois peut comme empiéter des futurs maraîchers là, ou de producteurs agricoles là, de partir des projets parce qu'ils ont comme un peu peur de ça. Mais il faut juste que tu restes comme déterminé dans comme qui tu es. Puis les gens, like, they're gonna move past it. You know, c'est toujours une question de the long haul, the long game. Faut que tu contredis leurs préjugés, puis que tu démontres que genre, ouais, genre, first and foremost, genre, je suis agriculteur, puis ensuite, je fais partie de la communauté.
Dans le but de partager leur savoir d'une manière qui les ressemble, nos deux fermiers maraîchers ont décidé de se lancer dans le mentorat pour les jeunes qui rêvent à un futur en agriculture.
Notre ferme, On est une ferme hôte pour des stagiaires pour le CRIFA Aquaticook. C'est une institution là, scolaire là, qui font des DEP, dans le fond, puis un programme en production horticole. Puis ça fait depuis 2020-2019 qu'on reçoit des stagiaires au printemps et à l'automne de ce programme-là en production horticole. Et notre identité ou notre appartenance à la communauté puis notre ferme, c'est vraiment comme tricoter ensemble. Un vient avec l'autre. On a un drapeau de fierté dans notre salle de conditionnement qui est là tout le temps, puis on n'a pas peur de démontrer notre fierté. Puis ça résonne beaucoup avec les étudiants là, du programme, puis surtout les jeunes aspirants agriculteurs qui font partie de la communauté. On a toujours au moins un stagiaire là, qui fait partie de la communauté, qui participe à notre ferme, qui est chez nous pour 3 mois, un jour semaine. Là. C'est pas des gros stages, mais quand même, ça leur permet de comme voir notre réalité, de faire partie de la communauté, puis d'être agriculteur et voir qu'est-ce qui est possible pour eux autres. Puis qu'ils savent que oui, c'est possible, oui, il y a des défis, mais c'est pas quelque chose qui est comme insurmontable. Parce que on a un devoir en tant que communauté de continuer de faire évoluer l'acceptance ou la tolérance ou juste comme l'inclusivité dans nos communautés. Puis juste d'être présent, puis de comme être pas peur d'être nous autres mêmes, ça l'aide à comme propager cette énergie-là, là, puis de créer un espace accueillant et inclusif. Donc c'est vraiment, c'est qu'est-ce que je souhaite là, le plus là, pour la communauté là, en agriculture, c'est qu'on passe à un point où que c'est plus comme un enjeu de faire partie de la communauté puis de se partir un projet, puis que les gens, ils font pas le préjugé juste au départ, puis qu'ils font juste, ils te voient pour qui que t'es, là. T'es agriculteur, agricultrice, et oui, tu fais partie de la communauté, mais c'est pas comme, ça va pas affecter leur interaction. C'est juste, we're just part of life now. We're here. And it's good.
Samuel et Jason partagent avec Michel et Joey le rêve d'un milieu agricole plus inclusif. Un milieu où deux fermiers passionnés peuvent partager un bisou, si l'occasion se présente.
En fait, moi, ce que je souhaiterais, c'est que je puisse faire la même chose que n'importe quel hétéro, c'est de prendre la main de la personne, de l'embrasser en public, puis de pas être gêné dans un commerce agricole, de pouvoir faire ça aussi si l'occasion se présente. Là. Sans exagérer aussi, mais...
Si l'occasion se présente.
Moi, c'est mon souhait.
Peut-être plus de ressources pour avoir justement plus d'occasions de se rencontrer. Parce que, tu sais, oui, c'est le fun, mais justement, on travaille tous 90 heures semaine. Donc, les distances sont énormes parce que c'est pas juste, tu sais, une petite section. Donc, avoir plus de possibilités de se rencontrer pour briser cet isolement-là. Qu'est-ce qui est à la portée de fête agricole aussi, parce que on peut pas tout faire non plus. Là. Comme à un moment donné, c'est très drôle, là, je parlais avec à Fierté Montréal, il y avait un paquet d'organismes ensemble, on jasait. Puis là, on parlait de différents organismes, ils avaient différents justement, objectifs. Puis ils disaient, moi, je voudrais monter à 300 membres, je voudrais monter à 10 000 membres, bon, etc. Je sais plus c'était quoi les chiffres à l'époque. Puis, ils ont dit, c'est quoi ton objectif de fierté agricole? Puis, j'ai dit, moi, c'est juste de rester le même nombre de membres. Puis, en fait, comme, mon Dieu, Joey, c'est quoi cette histoire-là? Mais j'ai dit, on perd une ferme au Québec par jour. Fait que juste garder ces fermes-là, ça, c'est pas LGBT, là, c'est comme tout inclus. Donc, tu sais, juste essayer de garder ce milieu agricole-là vivant, prospère, inclusif. Que, tu sais, ces jeunes-là qui veulent, ou ces jeunes, c'est pas des jeunes qui savent voir l'agriculture, là, on s'entend, là. On est dans 40 puis dans 50, là. Mais, tu sais, de se dire comme c'est encore possible. Mais, les objectifs de l'agriculture, je dirais, une plus grande possibilité de se voir. Parce que le besoin est là, puis on est juste des bénévoles. Fait que, se voir de façon régulière, c'est on réussit pas à répondre à la demande.
Puis vous qui êtes de la ville, là, ça serait bien si vous pouviez ralentir le temps.
Oui.
Vous devez être plus proche que nous de pour ça. Parce que nous, on aimerait ça que le temps ralentisse des fois. Et...
C'est pas un secret que la vocation d'agriculteur est demandante. Des longues journées autant en hiver qu'en été, mais avec du support et une communauté qui les entoure, nos fermiers et fermières en tirent le meilleur et sont fiers de dire que leurs semences sont 100% LGBTQ+. Fierté Montréal souhaite reconnaître le soutien financier du programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, qui a permis la réalisation de la série Balado « Ensemble pour tous ». Réalisé et scénarisé par Marie-Hélène Frenette-Assad, assistance à la réalisation et coordination Geneviève Corrigan, conception et idéation Samuel Desrosiers, recherche Steven Gentil, musique originale Marie-Hélène Frenette-Assad et Geneviève Corrigan, montage et mixage Roxane Potvin. Ensemble pour tous est une production de Fierté Montréal. Mon nom est Coco Béliveau. Merci pour votre écoute.